Chapitre 17. Souvenir. En ce mercredi 12 décembre, après son déjeuner avec sa mère et sa sœur, Anastasia rentra directement chez elle. D'ordinaire, elle passait ses mercredis après-midi à flâner dans le centre-ville de Genève. Mais entre les récriminations de sa mère et le silence de Lev, elle n'avait pas le cœur à la promenade. Elle se sentait profondément démoralisée et passa le reste de la journée enfermée dans sa chambre. Elle avait envie d'appeler Lev, d'entendre sa voix, d'être rassurée. Mais elle voulait que ce soit lui qui prenne l'initiative de téléphoner. C'était lui qui lui avait posé un lapin hier soir. À bout de nerfs, elle se mit à pleurer avant de sombrer dans un profond sommeil. Le soir tombait sur Colonie lorsque Arma, inquiète du silence de sa patronne, finit par aller la trouver dans sa chambre. La journée d'Arma ne s'était pas du tout passée comme elle l'avait envisagé. Ce matin-là, après une nuit d'insomnie et de tracas, elle s'était rendue chez les Ebesner avec la ferme intention de tout raconter à Macaire à propos de Lev Levovitch. Mais lorsque Arma était arrivée chez ses patrons, Macaire était déjà parti pour la banque. Il avait fallu qu'il choisisse ce jour-là pour faire du zèle. Elle avait alors décidé de faire la tête à Medem. Anastasia l'impressionnait trop pour l'affronter directement, mais elle voulait lui faire comprendre sa profonde réprobation. Mais lorsqu'Anastasia était descendue à la cuisine pour prendre son petit déjeuner, Arma l'avait trouvée bien malheureuse. Elle avait le regard triste et ses yeux rougis trahissaient les pleurs. Comme Arma se demandait si le chagrin de Medem était lié à Lev, l'évidence lui sauta aux yeux. « Qu'elle avait été sotte !» se blâma-t-elle, d'avoir tiré des conclusions aussi hâtives. Elle n'en avait pas fermé l'œil de la nuit. Or, elle avait oublié un élément capital. Si Lev avait téléphoné ici lundi, c'était parce que Medem ne voulait plus lui répondre sur son portable. Elle voulait rompre. D'ailleurs, ne lui avait-elle pas dit pendant l'appel que tout était terminé, qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui ? Arma ne décolérait pas contre elle-même. Ah, elle méritait son rang de servante pour avoir eu aussi peu de jugeote. Comment avait-il pu négliger cet élément ? Sans doute à cause du bouquet de roses blanches, mais s'il avait envoyé des fleurs, c'était pour essayer de la reconquérir après qu'elle eût sèchement éconduit la veille. D'accord, il y avait eu le bain immédiatement après avoir reçu les fleurs, mais des bains, elle en prenait tout le temps. Et pendant des heures, ça ne voulait rien dire. Si Medem avait rejoint Lev la veille au soir, c'était pour mettre un terme à sa liaison. Oui, elle s'était laissée égarer par la passion, mais elle avait rapidement recouvré la raison et avait agi en conséquence. Elle avait rompu et elle en éprouvait à présent un peu de chagrin. Au fond, il était beau ce chagrin. C'était la preuve que leur histoire avait compté, qu'il y avait eu du sentiment entre eux. Anastasia n'avait pas touché à son petit déjeuner. Lorsqu'elle était remontée dans sa chambre, Arma avait admiré sa tristesse. Elle était forte et digne et courageuse. Elle ne s'était pas trompée sur elle. C'était une grande dame. Comme tous les mercredis, Medem avait quitté la maison en fin de matinée. Par contre, ce qui était très inhabituel, c'est que Moussieu était rentré à la maison pendant sa pause déjeuner. Il était passé en coup de vent, l'air très préoccupé. Il s'était enfermé quelques instants dans la chambre avant de repartir comme il était arrivé. Au moment de franchir la porte, il avait juste dit à Arma « Vous ne m'avez pas vu ?» Puis Medem était revenue en début d'après-midi. Elle avait l'air encore plus malheureuse qu'au réveil. Elle s'était enfermée dans sa chambre de nouveau. En écoutant à la porte, Arma l'avait entendue sangloter. Elle avait eu beaucoup de peine pour elle. Medem n'avait plus reparu de tout l'après-midi. À présent, Arma était inquiète. Anastasia entendit frapper doucement à la porte. Elle se dressa dans son lit et vit le visage d'Arma dans l'entrebâillement. Un ray de lumière du couloir pénétra dans la chambre plongée dans l'obscurité.
« Ça va, Medem ?»
demanda Arma d'une voix de souris.
« Pas très bien, » répondit Anastasia.
Arma prit la liberté d'entrer dans la pièce et s'assit sous le rebord du lit. Elle caressa dans un geste affectueux un bout de la jambe d'Anastasia pour la réconforter.
« Tu peux faire quelque chose, Medem ?»«
Non, merci. Vous êtes adorable. »
« J'ai préparé de la soupe. Vous voulez que je vous en apporte ?»«
C'est gentil, mais je n'ai pas faim. »«
Vous n'allez pas dîner, Medem ?»
Anastasia fit non de la tête.
« Et monsieur ?» demanda Arma. « Il n'est toujours pas rentré.
Il doit avoir un client. »«
Je trouve que monsieur ne va pas très bien non plus. »«
Il se passe de drôles de choses en ce moment, Arma. Je voudrais beaucoup pouvoir vous aider.
Vous faites déjà beaucoup, Arma.
Rentrez tranquillement chez vous. Vous devez être fatigué.
Vous êtes sourde? Vous voulez pas un peu de compagnie?
Ne vous en faites pas pour moi.
Vous pouvez y aller. Merci pour tout.
Arma obéit et s'en alla, le cœur serré. Ça n'allait pas chez ses patrons et elle était triste pour eux. Et puis elle s'en voulait de tout le mal qu'elle avait pensé de Médim la veille.
Médim avait toujours été si gentil avec elle, généreuse, attentionnée, soucieuse de son bien-être. Pour son anniversaire, elle lui donnait congé et l'emmenait déjeuner en ville.
« Vous êtes un peu de la famille, Arma », disait souvent Médim.
Peu après le départ d'Arma, on sonna à la demeure des Ebesner, ce qui obligea Anastasia à quitter sa chambre pour aller ouvrir. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir derrière la porte Alfred Acostinelli, le chauffeur de l'Ève.
« Pardonnez-moi, madame, de me présenter ainsi à vous, mais la voiture de votre mari n'étant pas là, je me suis permis... »«
Vous avez bien fait, » lui dit Anastasia, pressée d'avoir des nouvelles de l'Ève.
« Monsieur Levovitch m'envoie ici pour vous présenter ses excuses. Il a été retenu toute la nuit par une affaire d'État. Il se trouve d'ailleurs en ce moment même encore aux Nations Unies, aux côtés du secrétaire général pour trancher une question de sanctions économiques. » Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais vous vous doutez qu'il s'agit d'une question de la plus haute importance.
À ces explications, Anastasia se trouva ridicule de s'être mise dans un état pareil.
Sous l'effet du soulagement et du bonheur, elle retrouva ses couleurs. Elle se moqua en son fort intérieur de son comportement d'adolescente, puis, d'un air affecté, elle dit au chauffeur
« Vous ferez savoir à Monsieur Levovitch que j'étais très triste de ne pas le voir hier soir. »
« Monsieur Levovitch m'a également chargé de vous remettre ce message. »
Agostinelli tendit à Anastasia une enveloppe. S'en saisissant, elle ne put réprimer un sourire éclatant et serra la missive contre son cœur.
« Merci, Alfred, » murmura-t-elle.
Agostinelli s'inclina pour la saluer et disparut dans l'obscurité du soir d'hiver. Elle se dépêcha d'ouvrir l'enveloppe. Anastasia avait retrouvé sa joie. Immergée dans un bain brûlant et débordant de mousse, elle lisait encore et encore le mot envoyé par Lev, prenant garde de ne pas le mouiller. « Partons ensemble, loin de Genève. Quittons tout. Je t'aime, Lev. » Sa tête bouillonnait de mille interrogations. Où partirait-il? Et quand? Quitte à tout abandonner derrière eux, fallait-il profiter du grand week-end de la banque pour fuir? Macaire irait seul, comme tous les ans. Les conjoints n'étaient jamais invités. Connaissant Lev, il avait sûrement tout prévu. Avant son mariage avec Macaire, Anastasia avait participé deux fois au grand week-end au palace de Verbier, où elle avait été traînée par sa mère. La première fois, c'était il y a 16 ans. À cette époque, elle avait 21 ans, elle étudiait la littérature. Au palace, elle avait rencontré Klaus, avec qui elle avait failli se fiancer. Quand elle repensait à lui, elle avait des frissons. 16 ans plus tôt. Première participation au grand week-end pour Irina et Anastasia.
Debout, les filles! Hurla Olga en débarquant dans la chambrette étroite que ses filles se partageaient dans l'appartement familial des Paquis.
Vous ne devinerez jamais la bonne nouvelle. J'ai obtenu une chambre à l'auberge des Chamois, à Verbier. Tout était archi complet et voilà que le patron vient de m'appeler. Désistement de dernière minute. Quelle aubaine!
C'est vendredi, Mamouchka, fit remarquer Irina. On a des cours à l'université.
« Crois-moi, ma fille, c'est pas à l'université que vous trouverez un mari, mais à Verbier, et ce week-end. »«
Que se passe-t-il à Verbier ?»«
Le grand week-end de la banque Ebesner, »
répondit Olga toute guillerette.
« L'occasion rêvée de vous trouver un mari. Alors ne vous plantez pas. Fini les jeunes écervelés de Klausters ou Saint-Moritz. Il vous faut un homme, un vrai, qui ait une carrière et des ambitions familiales. C'est un banquier qu'il vous faut. »
« Je ne sais pas si je veux me marier avec un banquier, » dit Irina.
« Tu te marieras avec qui on te dira, ma fille. Et ne prends pas un ton ingrat avec moi. Comme le dit si bien la reine d'Angleterre, « Never explain, never complain. » Allez, habillez-vous rapidement, moi je prépare vos valises. Il y a un train pour Martigny dans une heure. Vous me remercierez quand vous serez riche et que vous n'aurez plus jamais de soucis à vous faire. »
C'est ainsi que quelques heures plus tard, après un trajet en train Genève-Martigny-Le Châble, puis en car du Châble à Verbier, Olga, Irina et Anastasia prenaient leur quartier dans une chambrette inconfortable de l'auberge des Chamois.
il y a un cocktail de bienvenue pour les employés de la banque à 16h, au palace, expliqua à ses filles Olga, qui était au courant de tout. Enfilez vos robes bleues et mettez vos jolis talons noirs. On voit Laurent Fisch plein les yeux.
Mais on va se faire refouler, s'inquiéta Irina.
Pas si vous y allez avec aplomb. Vous entrez dans la salle comme si vous étiez les propriétaires des lieux. Si un serveur vous pose une question, vous le regardez de haut et vous lui demandez une coupe de champagne.
Lorsque Olga et ses filles firent leur entrée dans la salle de réception du palace, tous les regards se tournèrent vers les deux jeunes femmes, belles, élégantes, princières. Consciente qu'Irina et Anastasia étaient l'objet de toutes les attentions, Olga jubilait.
« Regardez-moi ça !» piaffa-t-elle en désignant un groupe d'hommes qui riaient. « C'est le gratin de la banque !» Le vieux là-bas, c'est Auguste Ebesner, le président de la banque. Et le grand à ses côtés, qui a l'air d'un acteur américain, c'est son fils, Abel Ebesner, le vice-président de la banque. On dit que c'est un financier redoutable et qu'il prend déjà toutes les décisions à la place de son père. Et là, regardez, le jeune en cravate sombre, c'est Macaire Ebesner, le fils unique d'Abel, l'héritier de la banque. Il a 25 ans et aussitôt que son grand-père passera l'arme à gauche, il deviendra vice-président. L'affaire d'une année et deux au plus, vu la mine du papy. Vice-président d'une banque à 26 ans, ça c'est la classe.
Les trois von Lacht se firent servir une coupe de champagne et scrutèrent la petite foule des banquiers. Soudain, Olga se mit à frétiller comme une anguille.
« Mais chérie, je crois bien que vous êtes dans les petits papiers du bon Dieu.
Vous voyez le grand beau type ténébreux là-bas? C'est Klaus van der Broek. Il est en stage à la banque. Il est directement lié à la famille royale de Belgique et riche comme Crésus. Son père est un important industriel bruxellois. Allez vous présenter. »
Comme les filles rechignaient, Olga les traîna avec elle et alla saluer Klaus van der Broek, déployant son génie de l'esbrouf.
« Cher Klaus van der Broek !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui.
Le Klaus en question ne voyait pas à qui il avait affaire, mais après tout, peut-être s'était-il déjà rencontré.
« Olga von Lacht !»
crut bon d'indiquer Olga en voyant que son interlocuteur ne la remettait pas.
« Bien entendu, chère madame !»
mentit Klaus qui eut la courtoisie de feindre de la reconnaître.
« Quelle joie de vous revoir !»«
Il paraît que vous faites un stage à Genève !»
s'enquit Olga. Cette remarque donna l'impression à Klaus qu'il avait effectivement déjà rencontré cette personne. Il se trouva fort confus de ne pas s'en souvenir.
« Oui, dit-il, mon père est très ami avec Abel Ebesner. Il voulait que j'acquière une expérience bancaire afin que je puisse gérer l'argent de la famille. »
« Comme c'est passionnant ! Permettez-moi de vous présenter mes filles, Irina et Anastasia. »
Les deux sœurs passèrent un long moment à discuter avec Klaus, qui n'avait Dieu que pour Anastasia, et qui flirtait ouvertement avec elle, pour le plus grand plaisir d'Olga. Lorsque le cocktail toucha à sa fin, Klaus fit promettre à Anastasia de le retrouver après le dîner. Il y aurait un orchestre au bar du palace, ambiance garantie. Olga, qui exultait, accepta pour sa fille. Anastasia, elle, avait le sentiment d'étouffer. Elle trouva un prétexte et s'échappa par une porte de service. Elle déboucha hors de l'hôtel. L'air frais lui fit du bien. À l'abri d'un auvent, elle contempla la neige qui tombait à gros flocons. Elle rêvait d'échapper au monde, et surtout à sa mère. Elle avait envie d'une cigarette, mais elle n'osait jamais transporter un paquet sur elle. Si Olga la prenait, elle était bonne pour une grêle de coups. Anastasia remarqua alors un homme qui lui tournait le dos, assis sur une chaise en bois, et qui fumait en silence. Sans voir son visage, elle sut qu'il était beau. Avec son manteau de tweed noir, il avait beaucoup d'allure. Même sa manière de fumer semblait élégante. Elle pensa à un prince en villégiature, ou plus probablement à un riche banquier genevois. « Vous avez une cigarette ?» demanda-t-elle. L'homme se retourna. Elle remarqua qu'il devait avoir son âge, ou alors à peine plus. Mais surtout, elle remarqua qu'il portait un badge sur sa veste. C'était un employé de l'hôtel. Il lui sourit et se leva pour lui apporter une cigarette. Anastasia resta subjuguée par le magnétisme de ce jeune homme. Elle lut son nom sur son badge, Lev. « Vous travaillez à la banque Ebesner ?» demanda Lev.
« Non,
Je suis de passage. Je m'appelle Anastasia.
Je suis une Habsbourg. »
Elle se mordit la langue et se traita aussitôt d'idiote. Pourquoi avait-elle dit une chose pareille? Pour l'impressionner?
Lev lui adressa un sourire radieux.
« Je m'appelle Lev Levovitch, » répondit-il. « Je suis bagagiste. »
Elle le dévora du regard. La foudre était tombée. Anastasia méditait longuement dans son bain. Elle était tellement heureuse d'avoir retrouvé Lev, mais elle s'en voulait du mal qu'elle allait faire à Macaire. Pour apaiser sa conscience, elle se répéta qu'elle devait penser à elle avant tout. Lorsqu'elle se coucha finalement, il était 23h. Elle n'avait eu aucune nouvelle de Macaire depuis le rappel de la mi-journée. Au téléphone, il lui avait semblé très bizarre. Elle aurait dû le rappeler, prendre de ses nouvelles. Pour la première fois, il lui manqua. À 23h30, au cœur du parc Bertrand, Macaire, pétrifié par le froid, faisait les 100 pas devant la grande mare. Un vent glacial lui fouettait le visage et faisait craquer les arbres. Les lieux étaient déserts et plongés dans l'obscurité. Seuls quelques lampadaires épars donnaient ça et là un peu de lumière. Ce rendez-vous mystérieux ne lui inspirait rien de bon, mais il n'avait guère le choix. Il se rassura en glissant sa main dans la poche de son manteau pour caresser la crosse de son revolver. Pendant l'heure du déjeuner, il avait profité de ce qu'Anastasia était chez Roberto avec sa mère et sa sœur pour retourner à la maison en toute discrétion et récupérer cette arme. Sa femme ignorait tout de cette acquisition. Il l'avait faite légalement quelques années auparavant. Son choix s'était porté sur un Glock 26, un revolver semi-automatique de fabrication autrichienne, compact, robuste, léger, fiable et tirant des munitions de calibre 9 mm. Il le conservait dans le coffre du boudoir dont lui seul connaissait la combinaison. Au fil des missions de la P-30, il avait ressenti le besoin d'être en mesure de protéger son foyer, au cas où quelque chose tournerait mal. Ce soir, tout particulièrement, il se félicitait de cette initiative. Une silhouette apparut soudain dans un halo. Macaire sentit son rythme cardiaque accélérer. « Qui est là ?» demanda-t-il à l'ombre qui approchait. La silhouette resta muette, et Macaire sortit son revolver et dirigea le canon en direction de ce qui pouvait être une menace. Soudain, à la faveur d'un lampadaire, il reconnut le visage de l'homme qui avançait vers lui. « Vous ?» murmura-t-il.